penser et dire sa foi. Une émission proposée par Jean-Michel Poirier. Penser et dire sa foi. Une émission en dialogue animée par des enseignants et des étudiants de l'IURP à Toulouse.
Bonjour François Larbouste, je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Toulouse à Grenade-sur-Garonne et que vous enseignez la christologie à l'Institut d'études religieuses et pastorales à Assise à Toulouse. Et donc nous venons de fêter la fête de l'incarnation, la fête de Noël. Nous sommes dans la semaine qui suit Noël pour cette quatrième et dernière émission du mois de décembre. Alors on parle du Sauveur, il vient nous sauver, ce petit enfant-là que nous célébrons, que nous fêtons, il vient nous sauver, il est le Sauveur, mais pourquoi ?
Alors, le salut, c'est un thème inépuisable et il y a bien des manières de le concevoir. L'incarnation est déjà une manifestation du salut. Dans cette proximité de Dieu, Dieu assume l'homme, vous savez, et tout ce qu'il a, à l'exception du péché. Hein, et du coup, on peut voir tout cet amour de Dieu qui déjà nous est donné. Sans nul doute, de l'incarnation vient aussi le sens de la dignité humaine. Hein. Et d'ailleurs, dorénavant, nous ne sommes plus jugés au soir de notre vie en fonction simplement de critères rituels, même si déjà dans l'Ancien Testament, il y avait autre chose qui était dit, hein, mais aussi parce que tout ce que nous ferons au plus petit, à l'homme, c'est au Christ que nous l'avons fait. Et ça découle de l'incarnation quand même. Voyez et donc, Dieu sauve par ça cette proximité. Hein, qu'il assume toute l'humanité. Les pères de l'Église disaient « ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé hein, ». Et on peut inverser ça, ce qui est assumé est sauvé. Hein. Et donc, le Christ assume tout, le Verbe en s'incarnant assume un corps, et le corps est promis au salut, à la résurrection, une intelligence, et le Christ est l'illuminateur qui vient nous révéler les secrets de Dieu, hein, qui est Dieu et comment il nous aime et comment il convient de vivre, etc. Il vient sauver notre intelligence, il vient sauver notre âme, hein, en la remplissant de sa grâce. Donc déjà, l'incarnation accomplit en quelque sorte par contact le salut. Mais c'est sûr que cette incarnation, il faudra aussi la croix. Hein. Il faudra la croix pour que nous soyons sauvés, non pas à vrai dire parce que ce serait une nécessité pour Dieu. Dieu aurait pu nous sauver par une simple décision de sa part. Hein. Autrement dit, si nous disons qu'il a fallu la croix, c'est par un argument de convenance, c'est-à-dire que nous constatons qu'il a voulu aller jusque-là, hein, et nous disons, mais pourquoi ? Nous essayons de chercher les raisons profondes de Dieu. Hein. Et là, nous constatons que le Christ a voulu porter les péchés des hommes. Hein. Il en a été victime sur la croix, d'une manière abominable, hein. Mais en même temps, il a accepté volontairement sa croix, et ça, tous les évangiles en témoignent. Le Christ n'a pas aimé mourir, mais en même temps, c'est une passion volontaire. Hein. C'est librement qu'il s'avance, il savait qu'il allait mourir, il le prédit tant de fois dans l'évangile, il aurait pu s'échapper. Mais non, il veut aller jusqu'au bout, hein. Et il veut porter ce péché pour que, en quelque sorte, de l'intérieur, le péché soit détruit, parce que Jésus, victime du péché, aime jusqu'au bout, hein, meurt en pardonnant et nous obtient le pardon.
Hein. Oui, autrement dit, ce qui vainc le péché, c'est l'amour vécu jusqu'à l'extrême.
C'est l'amour vécu jusqu'à l'extrême, exactement. C'est l'amour vécu jusqu'à l'extrême et ainsi nous trouvons dans le Christ à la fois le salut et le moyen aussi nous de faire face au mal.
Et donc on peut dire de ce point de vue-là que Dieu nous sauve d'une manière qui n'est pas celle des hommes, parce que nous voudrions détruire le mal et donc au passage détruire les pécheurs aussi. C'est ce que d'ailleurs demandent à un moment donné les disciples à Jésus, hein, de faire descendre ce feu du ciel. Hein, et on a parfois tellement envie de détruire le mal, et en commençant par détruire tous ceux qui font le mal. Mais oui, c'est pas la manière de faire de Dieu.
Non, d'ailleurs, ça pourrait se retourner contre nous un jour, ce genre d'esprit vengeur. Non, c'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu va chercher la brebis égarée et veut la guérir. Voilà. Moi, je ne veux pas la mort du pécheur, dit l'Ancien Testament, mais qu'il se convertisse et qu'il vive.
Et de ce point de vue-là, la scène rapportée par Matthieu, à laquelle je faisais référence, dite du massacre des innocents, montre déjà combien Jésus vient rejoindre l'enfant Jésus, le bébé Jésus, peut-on même dire, vient déjà rejoindre ceux qui sont persécutés, qui sont poursuivis par la haine des hommes.
C'est vrai, dans la croix est comme une icône aussi, une icône de tout ce que l'homme peut faire à l'homme. Hein, et quand vous voyez le crucifié, mais ça sert aussi d'avertissement en quelque sorte. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller dans la défiguration de l'homme, etc. Et aussi, puisque cet homme est Dieu, dans la défiguration de Dieu. Hein. Mais la croix sert aussi d'avertissement pour que l'homme se détourne du péché. Voyez jusqu'où c'est allé.
Hein. Oui, c'est-à-dire la gravité, le drame.
Le drame et la gravité du mal. Le Christ révèle la gravité du péché. Mais parce qu'en même temps, parce que le péché n'a de sens qu'en relation avec Dieu. Le cardinal Newman disait, nous ne comprenons pas ce que c'est le péché parce que nous ne comprenons pas qui est Dieu. Mais en même temps, que c'est par rapport à l'amour de Dieu que le péché prend tout son sens. Voilà comment cet homme qui était innocent, l'agneau sans défaut, plein de bonté, de douceur, etc., on l'a crucifié.
Hein. On peut dire que qualifier une faute ou un crime de péché, c'est tout à la fois en dire l'intense gravité, parce que on blesse autrui et on blesse Dieu.
Mmh. Et on se blesse soi-même.
On se blesse soi-même, on blesse la création aussi. Mmh. Et en même temps, dans une perspective chrétienne, qui dit péché dit miséricorde. Possible.
Possible. Hein. Il ne faut pas être comme Rasputin qui dit « pêche plus fortement pour être plus davantage pardonné ». Mais de fait, pour nous, le seul péché qui est sans rémission, c'est l'endurcissement jusqu'au bout. Hein. Mais sinon, le pécheur est toujours appelé à se convertir et Dieu le poursuit par sa grâce, hein, par sa grâce prévenante, jusqu'à ce qu'il se retourne vers lui. Dieu veut profondément le bien de chacun de nous.
C'est-à-dire qu'il y a toujours possibilité de conversion, mais Dieu ne convertit pas l'homme contre lui, contre la liberté humaine, je veux dire.
Non, l'homme est appelé à consentir au salut, c'est vrai. Même si le salut est une œuvre qui nous dépasse, et le salut est accompli une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'il faut se rappeler, le Christ est vainqueur. Hein. Mais chacun de nous a accepté dans sa propre vie que ce salut passe par son propre cœur et par sa propre existence.
Alors on rappellera ici que le nom même de Jésus signifie celui qui sauve. Hein. Il sauve. Et par ailleurs, il est aussi l'Emmanuel. Alors peut-être peut-on terminer cette série d'émissions sur la manière dont on peut vivre dans sa vie personnelle, et en particulier dans ce temps de Noël, se le rappeler dans ce temps de Noël, cette présence de Dieu en nous.
Eh bien l'Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et évidemment... tout ça, c'était déjà présent dans l'Ancien Testament. Il est ce Dieu qui accompagne le peuple en marchant dans la nuée. Hein. Mais c'est encore plus vrai quand Dieu vient dans la chair même de l'homme, hein, quand Dieu s'incarne, hein, et qu'il se fait petit enfant. On peut penser à Marie qui berçait son petit, c'est à la fois le tout petit et le très haut, c'est à la fois sa créature et son créateur. Hein. C'est merveilleux ça, hein. Marie-Noël, la poétesse, a des pages très belles là-dessus. Mais et je crois que cet enfant, mystérieusement, moi je me dis toujours à Noël, cet enfant il m'est aussi donné, il est déposé dans mes bras, il est déposé dans mon âme. Or, c'est vrai par le baptême, c'est vrai par la communion aussi, hein, l'Eucharistie. Et il m'invite à la fois, ben voilà, me laisser toucher par cet amour, et en même temps à en prendre soin, comme on prend soin d'un enfant. Et d'une certaine manière, voilà, à rester dans la fidélité à cet amour-là.
Comme disait Origène dans une de ses homélies, à quoi cela te sert-il de croire que l'étoile s'est arrêtée au-dessus de la maison de Bethléem, si tu ne reconnais pas que ce soir, elle s'arrête au-dessus de chez toi.
C'est très beau.
Et c'est donc à nous d'ouvrir la porte,
oui,
pour qu'il puisse venir en nous, faire sa demeure en nous.
Et oui, car il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est merveilleux, parce que si le Fils de Dieu, qui est Dieu par nature, se fait homme, c'est pour que nous, eh bien, devenant par l'incarnation et la rédemption, devenant ses frères, nous ayons son Père pour Père. Et ça, se dire, voilà, je suis enfant du Père, pas simplement enfant de Dieu au sens large, mais je suis rentré dans le cœur de la Trinité, et j'entre dans la même relation que Jésus avec le Père, alors non pas par nature, mais par adoption et par grâce, hein, mais c'est merveilleux de se dire que Dieu me fait rentrer dans l'intimité de l'amour éternel du Père, du Fils et de l'Saint-Esprit, et que comme Jésus, je peux dire « Abba, Père ».
Bien, merci beaucoup, cher François Larboust, d'avoir été avec nous pendant ce mois de décembre. Bonne fête de Noël à vous tous. Et à la joie de vous retrouver pour cette série d'émissions le mois prochain avec un nouveau thème et un nouvel invité.